Frères et sœurs, nous vivons dans des temps enthousiasmants et je pense que vous le réalisez. Et je le dis encore une fois, sincèrement, je crois que nous allons vivre les expériences les plus excitantes que nous avons jamais vécues d'ici 2-3 ans. Je ne veux pas dire que tout sera terminé, mais ce sera le commencement de la fin. Churchill faisait un jeu de mots là-dessus, il disait « Ce n'est peut-être pas la fin du commencement, mais le commencement de la fin ». Quoi qu'il en soit, nous allons voir beaucoup de choses commencer à se produire d'ici quelques brèves années. À ce moment-ci, frères et sœurs, nous, dans l'Église de Dieu, et j'espère que nous le réalisons vraiment, il faut aller plus loin. Il faut réaliser que nous sommes en guerre. Nous sommes dès maintenant en guerre, chacun d'entre nous dans cette Église, contre des forces invisibles. Il nous faut le comprendre. Tournez avec moi à 2 Chroniques, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 17. Toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et Christ a dit qu'il nous faut vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu et ça reflète le caractère de Dieu. Dieu Tout-Puissant décrit ici des choses auxquelles nous ne pensons pas assez souvent, je crois. Il décrit comment le roi Josaphat, qui était fidèle, mais a fait une alliance avec Achab, un roi méchant sur Israël. Ils se sont réunis et ils ont demandé à un prophète de Dieu de venir leur dire ce qui allait arriver concernant la guerre qu'ils voulaient faire. Et Achab disait, ce prophète-là m'haït parce qu'il déclare toujours des choses mauvaises à mon sujet. Alors, 2 Chroniques 18 et le verset 18. Et Michée dit, c'est le prophète de Dieu. Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Dieu valide ceci. C'est un prophète juste et il a vu dans une vision puissante. Il a vu la salle du trône de Dieu. Et l'armée des cieux se tenant près de lui. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Apparemment, Dieu voulait que ce roi-là meure à ce moment-là. C'était un roi très méchant. Un parla d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. On parle d'un monde spirituel ici, le monde qui est invisible à nos yeux, que nous le réalisions ou non. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » C'était bien sûr un démon. Les anges fidèles à Dieu ne feraient pas ça. Il dit, « Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel lui dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Qu'est-ce qui a fait qu'il a dit ça? C'était une vision du monde spirituel. Il y avait une conférence au ciel et Dieu parlait et certains des anges parlaient. Il y a un monde spirituel qui existe, qui est très réel. Il nous faut en être conscients. Allons à Daniel chapitre 10 maintenant. Daniel chapitre 10. Nous allons le voir davantage ici avec cet autre exemple que je veux vous donner. Daniel, chapitre 10, le verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. À cause de cela, Daniel a jeûné devant Dieu. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Il a mangé presque rien pendant 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve et là, il a vu une vision de Dieu. Ça décrit son aspect. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair et ainsi de suite. Et il est tombé sur son visage, il était comme dans une transe. Verset 10, qu'est-ce qu'il est dit ici? « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, voici un être spirituel puissant, avec une voix puissante qui parle à Daniel. Il dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place que tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Quelqu'un du monde spirituel a été envoyé à Daniel pour lui parler alors que sa nation était dans une situation terrible, captivité et tout allait mal. Daniel suppliait Dieu de comprendre. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, remarquez bien, Daniel a commencé à prier, à jeûner et à chercher Dieu de tout son cœur. » On le voit au chapitre 9, dans les premiers versets. Daniel priait et jeûnait. Daniel cherchait Dieu de tout son cœur pour comprendre. Et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, qui est-il? Il ne parlait pas d'un roi humain ici. C'est évident. Un être spirituel est prince sur probablement chacune des nations de la terre, en charge des nations du monde. Et c'est vrai encore dans nos nations aujourd'hui. On parle ici de démons. Ce n'est pas un prince de Dieu. Ce ne sont pas des princes de Dieu. Alors, il dit ici, le chef du royaume de la Perse m'a résisté 21 jours. Il combattait contre qui? Il combattait Gabriel, cet ange de Dieu. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Michaël est un des chérubins spéciaux avec Gabriel. Ils étaient autour du trône de Dieu, avec Lucifer au tout début, avant que Lucifer pêche, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Après, il parle de cette grande prophétie au chapitre 11, 12 et 13 du livre de Daniel. Ça nous amène directement, après ça, dans le temps, à l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. Alors, il dit, car la vision concerne encore ces temps-là. Verset 20 maintenant, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra, le chef de la Grèce. Voici un autre démon qui s'occupe de la Grèce, cette nation païenne. » Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Alors, Michaël, un archange, aidait à ce moment-là. Quand ces choses-là se produisent, c'est qu'il y a une guerre spirituelle en arrière-scène. Pourquoi, à la bataille de Stalingrad, est-ce que le vent a tourné? À ce moment-là, si les choses n'avaient pas arrivé comme elles sont arrivées, Hitler aurait pu nous conquérir. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs Anglais parlent maintenant de la fameuse bataille de Dunkirk et de ce qui s'est produit à ce moment-là. J'ai parlé à un homme de l'Angleterre qui a vécu ces choses et qui parlait du miracle de Dunkirk. Il n'avait jamais vu la Manche aussi calme. Aucune vague, aucun problème. Et à ce moment-là, Churchill a envoyé tous les bateaux disponibles pour aller chercher les soldats britanniques qui étaient adossés au mur face à Hitler de l'autre côté. Ils ont sauvé 340 000 soldats à ce moment-là. Ils ont pu rebâtir l'armée anglaise. Comment ces choses-là se sont-elles produites? C'est qu'en arrière-scène, il a dû y avoir une guerre spirituelle et le grand Dieu d'Israël, le Dieu des armées d'Israël, le Dieu de cette Église, l'Église de Dieu, a guidé ces événements et est intervenu. Le monde spirituel se déchaîne contre Dieu. Il est en furie contre l'Église de Dieu et contre vous. Vous allez être affectés davantage dans cela au cours des prochaines années. Je veux vous avertir de ce qui vient pour vous aider à vous préparer, à vous fortifier face à cela. Alors, il nous faut comprendre qu'il existe un monde spirituel et que ces choses-là se produisent. Le désir de Satan, c'est de détruire l'humanité. Voilà pourquoi Satan inspire les églises de ce monde et inspire les politiciens qui deviennent tout d'un coup ensemble pour l'avortement. Satan est en arrière-scène et inspire ces choses-là parce que Satan, le destructeur, veut détruire l'humanité au complet. De toutes sortes de façons, il nous faut comprendre comment Satan pense. Il est un meurtrier, il est un menteur et le père du mensonge, comme Jésus a dit dans Jean 8, 44. Satan est en arrière-scène de tout ça, il nous faut le comprendre. Satan en a après nous, parce que nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes la garde avancée d'un autre gouvernement qui sera bientôt établi sur la terre et qui va remplacer Satan et ses démons. Nous sommes l'avant-garde de ce gouvernement. Satan le sait, il déteste cela et il va essayer de nous éliminer s'il le peut. Il va s'en prendre à vous, à chacun d'entre nous dans l'Église. La sermonnette qui a été donnée ce matin nous a inspiré dans ce sens-là en nous disant « Cherchez Dieu de tout votre cœur ». Malgré les épreuves que nous avons, il nous faut agir ainsi dans cette bataille. Nous sommes dans une bataille spirituelle contre Satan. Il nous faut savoir comment vaincre et comment avoir la force nécessaire. Satan voudrait que nous fassions des compromis, que nous nous éloignions de Dieu. Allons à Éphésiens chapitre 2 maintenant. Éphésiens chapitre 2, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Éphésiens 2, verset 1. Paul écrit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Par le baptême, nous avons été pardonnés de nos fautes passées. » Il dit, « Vous étiez morts avant ça par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Voyez-vous? Nous avons tous marché selon les désirs de Satan. Je l'ai fait, vous l'avez fait aussi. Ne nous comptons pas d'histoire à ce propos-là. Nous avons tous fait ça. Il faut en être conscient, absolument. Nous sommes des êtres humains. Nous venons de là. Nous avons été guidés et influencés par Satan dans le passé plus que nous pouvons le croire. Le prince de la puissance de l'air. Satan diffuse. M. Armstrong disait, Satan diffuse la haine, la convoitise, la vanité, l'orgueil. Il diffuse continuellement ces attitudes-là dans l'esprit des gens à travers le monde. Moi, j'appelle ça le SDS. Nous avons CBS à la télévision, mais moi, j'appelle ça SDS, c'est-à-dire le système de diffusion satanique qui diffuse des attitudes mauvaises et des idées contraires à Dieu. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un monde spirituel réel qui existe. Satan n'abandonne jamais. Il ne se fatigue jamais. C'est un esprit. Et il travaille actuellement dans les fils de la rébellion. Il nous faut réaliser ce grand pouvoir, cette grande puissance en arrière-scène. Il nous faut réaliser que Satan est réel. Allons à Éphésiens chapitre 6 maintenant. Éphésiens chapitre 6. Avant ça, il a parlé d'honorer nos parents, de croire dans la grâce, dans la connaissance, de nous aimer les uns des autres. Il dit au verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Ce n'est pas par votre force que vous pouvez réussir. Il faut comprendre ça. Si vous essayez de combattre Satan par votre force, vous allez être perdant. Il faut que vous ayez la puissance de Dieu. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre ses ruses, contre ses stratagèmes. » Il est très subtil. Un jour, il va arriver vers vous dans telle direction ou par telle entrée et le lendemain, il va arriver autrement. Dans le passé, dans les années 50, plusieurs personnes ont essayé de renverser M. Armstrong. Finalement, en 1979, l'État de Californie s'en est pris à l'Église pour éliminer l'Église. Un jour, je suis arrivé au bureau, au quatrième étage du bâtiment d'administration, et il y avait des gens armés représentant l'État. M. Wayne Paul est devenu comme un héros dans l'Église à ce moment-là, parce que les policiers ont tenté d'aller dans la suite exécutive où M. Armstrong aurait pu se trouver, il n'était pas là, mais Wayne Pyle a bloqué la porte, il aurait pu se faire tuer. Je ne me rappelle pas comment ça s'est passé, mais je pense que les autres ministres l'ont convaincu d'ouvrir la porte pour que les officiers puissent entrer. il a manifesté beaucoup de courage. L'État de Californie a essayé de prendre en charge l'Église à ce moment-là. On a demandé aux gens d'envoyer les dîmes, non pas à Pasadena, mais à l'adresse personnelle de M. Armstrong à Tucson, et l'œuvre a pu ainsi continuer. Dieu nous a libérés de ça. Et combien de fois Dieu l'a fait, il nous a libérés de toutes sortes d'épreuves au cours de l'histoire. Satan, le diable, est souvent derrière ces choses-là et provoque ces choses-là. Il nous faut être conscients de ça, conscients de ses ruses. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, on ne combat pas des êtres humains, mais contre les dominations, des êtres puissants qui occupent des postes actuellement. Dieu le permet pour l'instant, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un monde spirituel qui existe. Il y a des millions et des millions d'êtres spirituels. Vous pourrez voir dans Apocalypse 5 et le verset 11, vous verrez là qu'il y a des dizaines de millions ou des centaines de millions d'anges autour du trône de Dieu, dans la salle du trône du gouverneur de l'univers. Alors, quand on voit par la Bible que Satan a séduit un tiers des anges, donc il a amené avec lui des millions d'anges qui sont devenus des démons, des esprits contre Dieu. N'ayez pas peur d'eux. J'ai vu Dieu délivrer l'œuvre, j'ai vu Dieu me délivrer, j'ai vu Dieu délivrer M. Armstrong à plusieurs reprises. Il le fait toujours, mais il faut d'abord faire notre part et combattre le bon combat de la foi, être des guerriers spirituels. Il nous faut le réaliser. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes en guerre contre des puissances énormes qui veulent nous décourager, qui veulent nous amener à faire des choses mauvaises, qui veulent amener les gens à penser que Dieu n'est pas juste, amener les gens à accuser les ministres, à accuser l'Église, à accuser l'œuvre. Ils sont sages dans leur façon de faire, ils sont subtils dans la façon de faire. Pour que ces petites choses-là deviennent des grandes choses dans l'esprit des gens et que ces gens-là, les membres de l'Église, se détournent de Dieu, ils se détournent de l'Église. Ne laissez pas ça vous arriver. Vous pouvez dire, Monsieur Meredith fait des erreurs. Oui, je fais des erreurs. Ma femme pourrait vous le dire très bien. Je ne fais pas de grandes erreurs. Si je me détourne de la vérité et que j'annonce des choses contraires à la Bible ou que je tue, que je fais des choses comme ça, d'accord, ne me suivez pas. Écoutez, ça fait 60 ans que j'essaie d'obéir à Dieu de mon mieux et que j'essaie de m'améliorer. Je ne veux pas faire aucune de ces choses-là. Ne soyez pas inquiets. Bien sûr, j'ai de la vanité, de la jalousie, de la convoitise. Et vous aussi, ça va continuer à être là et il va falloir nous en débarrasser complètement. Dieu a quand même une Église, une loi, une façon de vivre. Et il ne faut pas nous détourner de là où Dieu accomplit son œuvre. Il ne faut pas nous détourner de l'équipe par laquelle Dieu accomplit son œuvre. Dieu va nous donner tout ce qu'il faut, mais l'adversaire va essayer de nous détourner. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs, il parle du jour mauvais ici. C'est de ce temps-là que je vais vous parler. Ce temps-là est juste devant nous. Je pense que ça peut prendre encore 3 à 6 ans avant que ça devienne à pleine force, si vous voulez. Mais ça va commencer à se produire de façon plus importante quand la guerre céleste va se produire, comme c'est marqué dans Apocalypse 12. Ça peut commencer d'ici quelques brèves années. Et d'autres choses vont commencer à se passer rapidement. Ça peut prendre 8 à 10 ans, bien sûr. Mais écoutez, ça sera sûrement du temps des plus jeunes parmi nous ici. Ce sera des temps mauvais. Vous serez testés, vous serez mis à l'épreuve. Certains d'entre nous, les plus vieux, peut-être, nous allons être en repos. Peut-être que Dieu va permettre que nous endormions avant. On l'a vu dans le passé. Dieu a permis que certains de ses serviteurs s'endorment pour ne pas avoir à rencontrer certaines épreuves majeures. Il nous faut continuer à combattre le combat de la foi. Il faut que tout soit selon la volonté de Dieu. Il faut faire ce que Dieu nous dit de faire. Il faut mettre notre confiance en lui et voir la perspective d'ensemble, toujours. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est la chose principale. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à cette église? Est-ce que vous êtes venu à l'église à cause de M. Armstrong, à cause de sa belle voix, à cause de sa personnalité? Vous n'êtes pas venu à l'église à cause de ma belle voix ou de ma personnalité? Je le sais. La plupart d'entre vous, vous êtes venus à l'église à cause d'une chose, la vérité. La vérité. La vérité. Où est la vérité? Prouvez par vous-même qu'il y a un Dieu réel et prouvez que cette Bible est la parole de Dieu. Vous allez voir que cette Église n'est pas parfaite, mais nous prêchons cette Bible au mieux que nous pouvons avec l'aide de Dieu. Nous annonçons le royaume de Dieu et nous allons faire partie de ce royaume dans quelques brèves années. Comment régner dans le gouvernement de Dieu dans le monde à venir si actuellement vous prenez part à la politique dans le monde et ainsi de suite? Non, vous faites partie d'un autre gouvernement à venir. Nous sommes ici à cause de l'Église. N'oubliez pas ça. Tant et aussi longtemps que la vérité est annoncée par cette Église et que cette Église annonce l'Évangile, elle n'est pas parfaite, cette Église, bien sûr, mais tant et aussi longtemps qu'on fait ça, suivez cette Église. Vous savez, certains pensent que si le Christ revenait, les gens l'écouteraient. Non, lorsqu'il est venu, les gens l'ont tué. Ils ne se sont pas tous convertis à ce moment-là. Quand Pierre a prêché, quand Paul a prêché, est-ce que les gens se sont tous convertis? Non, pas du tout. Mais à la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai terminé la course, la couronne de gloire m'est réservée. Et après toute cette souffrance qu'il a vécue, après tout le travail qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu, un bon matin, il a été mis à mort. Il a mis sa tête sur une pièce de bois et il a été décapité. Quelle que soit la forme de mort précise qu'il a endurée, Paul a sans doute dit, comme Étienne, Dieu, j'ai marché avec toi toutes ces années, je veux continuer à marcher avec toi, reçois mon esprit. Il va prendre soin de moi. Dieu va prendre soin de chacun de nous, maintenant et dans la résurrection, s'il y a lieu. Dieu est un Dieu réel. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi la ceinture? Parce que c'est le niveau des convoitises humaines, la convoitise pour la sexualité perverse, pour le fait de manger trop. Beaucoup de gens mangent trop. C'est là que sont les désirs ou la convoitise pour l'alcool de façon démesurée et ainsi de suite. La sexualité n'est pas mauvaise, mais il faut l'utiliser de la bonne façon. On mange, mais de la bonne façon. On peut prendre du vin, mais pas en s'enivrant. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est là qu'est votre cœur. Qu'est-ce que la justice? Psaume 119, verset 172. Tous tes commandements sont justes, sont la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Il nous faut être occupés à annoncer l'Évangile et à soutenir cette œuvre. C'est dans cette direction que nous allons, c'est ce que nous faisons. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Bien sûr, par-dessus tout, nous devons avoir l'amour. Il y a l'amour et la foi. Écoutez, quand Satan vient vous attaquer, vous devez bien sûr continuer d'avoir de l'amour, mais il vous faut avoir d'abord de la foi à ce moment-là que Dieu va vous délivrer, que Dieu va vous aider à passer à travers. Et qu'il va vous aider à passer à travers les jours sombres qui s'en viennent. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Certains vont dire, « Ah, M. Winning a fait une erreur, M. Meredith a fait une erreur, M. Wakefield a fait une erreur, M. Ames a fait une erreur, ou quelqu'un d'autre. » Oui, nous faisons de petites erreurs. Est-ce que ça va vous détourner? Non. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous travaillons vers la perfection. Il dit, « Faites attention. » Il y a toutes sortes de traits enflammés que Satan va envoyer sur vous. Il faut être capable d'éteindre les traits enflammés de Satan. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut garde votre esprit. Dans votre esprit, vous devez avoir l'Esprit de Dieu. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'arme que nous avons, l'arme active que nous avons, c'est la parole de Dieu. La seule arme active que nous avons, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, saturez votre esprit avec les choses de la Bible. Quand Satan a dit à Jésus, « Jette-toi en bas et Dieu va prendre soin de toi », le Christ a répondu exactement ce qu'il fallait répondre selon la parole de Dieu. Et il faut, nous aussi, connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu au test. Certaines personnes vont dire, je vais prendre des serpents dans mes mains parce que c'est écrit que les serviteurs de Dieu pourront prendre des serpents. Non, on ne doit pas mettre Dieu au test de cette façon-là. Satan et ses démons vont diffuser toutes sortes de fausses idées et il faut être capable, au mieux que vous pouvez, de vous défendre avec la vérité, la vérité, la vérité qui est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il faut prier. Il faut le comprendre dans ce contexte. Si vous diminuez de prier ou si vous cessez de prier, même pour une seule journée, Satan peut avoir plus de chances, avec une double puissance, de vous attaquer. Il sait que vous n'avez pas prié ce jour-là. Je me rappelle David John Hill, un homme que j'ai connu. Il donnait cet exemple-là. Il disait, « Si je sors le matin sans avoir prié, c'est comme si je sortais de la maison sans être vêtu, comme si je sortais de la maison nu. On ne veut pas faire ça. » Lorsqu'on ne prie pas, avant de commencer la journée, on commence la journée sans être vêtu et on part de chez soi sans être vêtu. Il faut prier Dieu chaque jour. Ne laissez pas commencer les journées sans parler à Dieu. Une chose que je fais, je ne suis pas parfait en rien, croyez-moi, je suis très imparfait. Mais au cours des dernières années, ce que je fais, c'est même avant de me lever du lit, pendant 1 ou 2 minutes, je demande à Dieu de m'inspirer et de m'aider à mettre ma journée en ordre et de m'approcher de lui de bonne façon et de m'utiliser. Après ça, je me lève, je vais faire ma barbe, je me peigne, et là, je suis réveillé. Je revais mon peignoir et je vais prier avant de faire quoi que ce soit. Même avant de manger, avant de commencer à lire les nouvelles du jour, et ainsi de suite. Avant quoi que ce soit d'autre, avant que mon esprit s'en aille sur d'autres choses, je prie Dieu. Et c'est marqué ici, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Supplier veut dire continuer à demander à Dieu avec insistance. Veillez à cela en toute persévérance. N'abandonnez pas, ne diminuez pas. Et priez pour tous les saints. « Priez pour moi, dit Paul. » afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. À plusieurs reprises, Paul a été prisonnier, et il dit, rappelez-vous de mes chaînes. Priez, frères et sœurs, pour que Dieu ouvre des portes plus grandes pour nous, actuellement. M. Ames et moi avons approuvé dernièrement que nous achetions du temps sur une autre station de télévision dans l'État de Washington, en face du Congrès américain, devant les leaders de la nation. Ils ne l'entendront pas tous, bien sûr, mais nous allons être présents là, directement à Washington, pour la première fois. Bien sûr, ils peuvent prendre nos émissions sur d'autres stations, mais nous allons être présents sur une station dans cette région. Dieu nous bénit et ouvre de plus en plus de portes pour nous. Et récemment, il l'a fait à Beaumont, au Texas, à Houston, à Denver, au Colorado, et maintenant à Washington, district de Columbia. Alors, priez que Dieu ouvre d'autres portes pour que nous puissions proclamer l'Évangile à ce monde avec beaucoup plus de puissance. On doit le demander régulièrement. Faites-le. Et le fait de faire ça, ça nous aide à être plus forts face à Satan aussi. Demandez à Dieu de vous aider à utiliser ses armes spirituelles de mieux en mieux. Apocalypse, chapitre 12. Maintenant, Apocalypse, chapitre 12, et commençons à lire au verset 1. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La plupart d'entre vous qui êtes dans l'Église depuis longtemps, vous savez de quoi il s'agit. Ça parle de l'ancienne nation d'Israël. Et vous vous rappelez, bien sûr, du rêve que Joseph a eu concernant les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël. Et la femme, ici, symbolise l'Église de Dieu, l'Église de l'Ancien Testament, la nation d'Israël qui a donné naissance au Christ. Elle était enceinte, cette nation d'Israël, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut. Voici un autre signe. Il y a des choses spirituelles qui se sont produites et qui se produisent encore. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est Satan le diable. ayant sept têtes et 10 cornes. Bien sûr, il est celui qui sera derrière la puissance de la bête qui est en train de se constituer dans l'Empire romain qui va ressusciter en Europe. Ayant sept têtes et 10 cornes, et sur sa tête, sept diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Les étoiles, vous pourrez voir dans Apocalypse 1:20, ce sont des anges. Satan, Lucifer, a entraîné dans sa chute un tiers des anges. Ça montre à quel point Lucifer est puissant. Et une autre chose que je veux vous dire ici aussi, M. Armstrong a mentionné ça vers la fin de sa vie. Alors, j'essaie d'en parler plus souvent. Quand vous voyez Apocalypse 20, vous voyez qu'après le millénium, vous voyez que tout le monde sera en paix, la terre entière sera en paix, les saints auront régné pendant 1000 ans à ce moment-là. Ce sera un monde formidable. Et on peut dire, waouh, c'est merveilleux, après 1000 ans du règne de Christ, qu'est-ce qui peut changer ça? Satan peut changer ça, peut bouleverser ça. Après le 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison pour une courte période de temps. Et dans la période de quelques mois, peut-être, il va faire plusieurs nations se détourner contre Dieu et venir attaquer le Christ à Jérusalem. Et Christ, bien sûr, va les détruire. Ce sera une dernière leçon puissante que Dieu va donner au monde spirituel, à ses anges fidèles, bien sûr, aussi, et à tous les êtres humains. Pour une dernière fois, Satan se verra recevoir l'autorisation d'agir, et il va agir tellement rapidement. On pense que ça peut être impossible après 1000 ans du règne de Christ. Non! La nature humaine se remplit facilement de vanité. Je suis important, je veux ce que je veux. À ma façon, la jalousie est facile de s'installer en nous. La convoitise également. Nous convoitons l'autre sexe. Nous convoitons l'argent, nous convoitons la puissance et nous convoitons toutes sortes de choses. Nous ne sommes jamais satisfaits en tant qu'être humain. Vanité, jalousie, convoitise. Et Satan le sait et il va utiliser ces armes-là encore une fois. Après le 1000 ans, il est très subtil et très puissant. Il est capable de renverser des êtres humains très rapidement. Même après le millénium, il va le faire, comme on voit dans Apocalypse 20. Le dragon se tint. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et vous savez que quand Christ est né, Satan a fait tuer des milliers de petits-enfants. À ce moment-là, elle enfanta un fils, verset 5, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Alors ici, on avance dans le temps, bien sûr. Et on voit ici, ça décrit la naissance du Christ, puis après ça, la fin de la vie humaine du Christ, et ensuite l'ascension du Christ au trône de Dieu. Ça avance rapidement dans le temps ici. Verset 6 maintenant. Verset 7. Et il y eut une... Verset 6, pardon. La femme s'enfuit au désert, c'est-à-dire qu'il y a une période de temps durant le Moyen Âge, une période où l'Église a dû fuir dans les montagnes pendant 1260 ans. Elle a été protégée pendant 1260 jours, 1260 ans. À la fin des temps... Une autre chose se produit, et ça, c'est devant nous maintenant, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le grand dragon, Satan, le diable, a été éliminé à ce moment-là, sera éliminé. Le Christ va remporter la victoire, il n'y a aucun doute. Satan ne le croit pas, parce qu'il ne croit pas la Bible non plus. Verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. » Nous le disons tellement souvent. C'est la réalité. C'est puissant comme déclaration. Satan a séduit toute la terre, excepté le Christ. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça s'en vient. Cette guerre va se déclarer bientôt, d'ici 5 à 10 ans, cette guerre spirituelle au trône de Dieu avec ce qui va s'ensuivre. Il y a quelqu'un qui a quitté l'Église de Dieu il y a plusieurs années, qui s'est déclaré prophète et apôtre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se déclarer plus tard. L'ascenseur monte très, très vite. Cet homme-là dit que cette guerre-là a déjà eu lieu. Mais moi, je vous dis par l'autorité de la Bible que cette guerre-là n'a pas eu lieu encore. Quand ça va se produire, vous allez voir toutes sortes de choses étranges se produire sur toute la face de la terre. Vous allez voir des gens être mis à mort de plus en plus en grand nombre, comme jamais auparavant. Vous allez voir des choses incroyables et bizarres se produire et de plus en plus étranges. Le monde est méchant actuellement et mauvais, mais il deviendra encore plus mauvais. Ça ne s'est pas produit encore. Quand ça va se produire, vous allez voir des choses étranges et perverses se produire. Vous allez voir des gens en Europe, certains des leaders d'Europe qui sont des gens décents et des bonnes personnes actuellement, vont changer et vous allez voir dans leurs yeux des regards étranges comme ceux que Hitler avait. Ils seront dirigés par un esprit diabolique puissant. Ils seront dirigés par Satan qui veut détruire l'héritage de Dieu, les nations israélites. Dieu va permettre à Satan de faire ça. Quand ça va se passer, attention. Alors, Satan et ses démons seront jetés sur la terre d'ici quelques années. Et il parle de Satan comme étant l'accusateur de nos frères qui sera jeté en dehors du ciel lorsqu'il montera. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de leur témoignage. C'est l'accusateur de nos frères, comme on voit. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Satan va essayer de vous faire accuser les ministres, de vous faire accuser les autorités de l'Église, de vous faire accuser même Dieu. Pensez que Dieu est injuste, c'est une accusation contre Dieu. C'est une accusation contre Dieu. Ne faites pas ça. Ne vous laissez pas prendre dans ce type de piège. Si vous pensez que Dieu n'est pas juste ou que certains enseignements de l'Église ne sont pas justes, venez nous en parler. Certains groupes qui sont sortis de l'Église de Dieu ont des dictateurs pour dirigeants. Nous ne sommes pas comme ça, je vous le promets, nous ne faisons pas ça. Si quelqu'un dans l'Église a cette attitude-là, dites-le-moi et je vais m'en occuper. Nous ne faisons pas ça. Si vous avez des questions honnêtes, sincères, posez-les et nous allons vous répondre. Certains vont dire, je ne peux pas me permettre de payer la deuxième dîme. Non, non, vous pouvez mettre une deuxième dîme de côté pour aller à la fête de Dieu et Dieu va vous aider de le faire. Et cette deuxième dîme-là, elle est pour vous, pour célébrer les fêtes de l'Éternel au cours de l'année et particulièrement la fête des tabernacles à la fin de l'année. Ça représente plusieurs jours de fête. Écoutez, si vous alliez en vacances, ou lorsque vous allez en vacances, vous dépensez beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des vacances, bien sûr, ce sont les fêtes de Dieu pour l'adorer. Voyez les choses sous cet aspect-là. Ce n'est pas déraisonnable de mettre de côté une deuxième dîme pour aller à la fête et Dieu va vous bénir. Les choses vont tourner bien pour vous. J'utilise cet exemple-là, bien sûr. Certaines personnes trouvent toutes sortes de raisons pour mettre de côté ce que Dieu dit. Certains disent que je n'ai pas le moyen de payer la dîme. M. Armstrong a déjà écrit des articles. Entre autres, il a décrit le cas d'un homme qui disait ne pas avoir le moyen de payer la dîme. Et finalement, il a décidé de mettre Dieu au test pour un an ou deux. Et Dieu l'a béni de tellement de façon extraordinaire. Il a été frappé. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas payer la dîme. Vous n'avez pas le moyen de ne pas payer la dîme. Certains des frères ne veulent pas observer complètement le sabbat parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail. Certains de ceux qui sont appelés, il faut qu'ils prennent des décisions. Sachez que Dieu va vous donner un emploi meilleur, soit maintenant ou soit plus tard, mais Dieu va prendre soin de vous de toute façon. Vous ne pouvez pas laisser Dieu hors du portrait. Sinon, toutes sortes de choses mauvaises vont arriver si vous suivez vos raisonnements pour vous détourner de la loi de Dieu. Si Dieu vous appelle, faites ce que Dieu vous dit, le Dieu juste, le Dieu d'amour, et vous allez voir que ces voies fonctionnent. Prouvez-le par vous-même et pour vous-même. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Dites à Dieu, ma vie, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie, c'est toi qui me l'as donné. Mon temps, ce n'est pas mon temps, c'est ton temps. Aide-moi à l'utiliser pour mieux te servir. Mon argent n'est pas mon argent, c'est ton argent, Père. On n'a jamais demandé aux gens d'envoyer tout leur argent à l'Église. Mais on applique la loi de Dieu. Les gens envoient 10% et les gens donnent des offrandes généreuses aussi. Ayez foi à Dieu. Satan va essayer de vous faire douter de toutes sortes de façons imaginables. C'est l'accusateur de nos frères et il accuse Dieu. Ils l'ont vaincu, verset 11, par le sang de l'agneau à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Certains dans le passé ont été martyrisés, d'autres vont mourir à cause de leur croyance et de leur fidélité. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Temps très court, jusqu'à temps que le Christ revienne. Et là, Satan sera éliminé. Satan sera lié pour 1000 ans. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Voici maintenant l'Église du Nouveau Testament, et ça va se produire. Ce temps-là est devant nous. Il faudra avoir de la foi, de l'amour et de la persévérance. Faire confiance à Dieu, confiance que le Dieu vivant va vous aider. Satan va vous poursuivre, et Satan va utiliser des instruments humains pour s'en prendre à vous. Il va poursuivre la femme, il va la persécuter. La femme qui avait enfanté le fils, verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Il n'y a pas d'enlèvement secret, ce n'est pas biblique. Il y a un lieu de sécurité de préparer pour la femme. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Voyez-vous, ce n'est pas sur la mer de verre autour du trône de Dieu au ciel que l'Église est apportée, mais c'est au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Peut-être certains vont dire, qu'est-ce qui va arriver si on va à Pétra? On va mourir. Je ne sais pas si c'est Pétra, on verra plus tard. J'ai déjà pensé à ça. Mais écoutez, il ne faut pas oublier une chose, Dieu. Il ne faut pas oublier quelqu'un, Dieu. Si vous laissez Dieu en dehors de la situation, ça n'a pas de sens. Vous allez mourir, bien sûr. Mais si c'est la volonté de Dieu, et c'est la volonté de Dieu, Dieu va intervenir et Dieu va nourrir ses enfants à ce moment-là. Bien sûr, Dieu va devoir prendre soin de vous et il va le faire dans le lieu de sécurité. Si vous avez mis déjà votre foi en Dieu, que vous avez été fidèle et si vous avez montré par vos actions que vous lui faites confiance, vous serez au lieu de sécurité si vous faites ça. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. Allez voir les passages suivants pour voir de quoi il s'agit. L'eau du fleuve qui sera lancé derrière l'Église. Ce seront des armées, comme vous verrez dans Jérémie 46, 7, Daniel 9, verset 26, Ésaïe 59, verset 19. Parfois, la Bible décrit un fleuve ou les eaux comme étant des armées. C'est apparemment ce qui va se passer ici. Satan va utiliser les armées de l'Empire romain ressuscité pour poursuivre la femme, faire la place de sécurité. Mais la terre va engloutir ces armées-là. Par la puissance de Dieu, nous allons vaincre ça. Nous vainquons toujours par la puissance de Dieu. Satan sera défait dans cet épisode. Dieu va prendre soin de nous si nous lui faisons confiance. Verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent ses commandements, ceux qui sont fidèles maintenant, qui sont zélés maintenant, seront amenés au lieu de sécurité. Mais ceux dont il est question ici sont décrits dans Apocalypse 3 comme étant l'Église de Laodicée. C'est l'Église de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ont des fausses doctrines. Il dilue les choses, bien sûr, mais la chose la pire que Dieu leur reproche, c'est d'être tiède. Ils possèdent la plupart de la vérité, mais ils n'ont pas le zèle de vivre selon toute la vérité de Dieu avec passion continuellement. C'est là leur problème. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, et que nous ne diluions pas sa parole et ses ordonnances et ses directives et ses commandements. Que nous en vivions au mieux avec sa force. On voit que Satan, à ce moment-là, va aller faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Est-ce que ce sont des gens mauvais? Non, ils gardent les commandements de Dieu de façon générale. Et ils ont le témoignage de Jésus. mais ils ne sont pas engagés totalement envers Dieu, ils ne sont pas totalement zélés, ils ne marchent pas de tout leur cœur avec Dieu. Dieu n'est pas contre eux, il ne les déteste pas. Il veut qu'ils soient dans le royaume, mais il veut être certain qu'ils soient totalement engagés. Et c'est pour ça qu'il leur permettra de passer par la grande détresse. Il faut que Dieu sache que nous ne nous laisserons pas être offensés par quoi que ce soit et que nous ne nous détournerons jamais de lui. Quand Dieu nous donnera la charge d'une planète, par exemple, il veut être certain que nous allons marcher dans ses voies et que nous allons continuer à être soumis et fidèles à son gouvernement. Je parle de gouvernement, bien sûr. C'est important d'avoir un sermon sur le gouvernement de Dieu. C'est capital dans le plan de Dieu. L'Église de Dieu a un gouvernement humain, bien sûr. Et c'est le Christ qui est le chef de ce gouvernement, comme on voit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Le Christ est le chef vivant et actif de son Église. Que moi-même je meure ou que je vive, nous avons des gens loyaux comme M. Richard Haim qui vont continuer à ma place, qui vont continuer à enseigner la vérité. Et tant et aussi longtemps que cette vérité est enseignée, il vous est commandé de suivre ce gouvernement. Tant et aussi longtemps que l'Église suivra la vérité, à la fin de sa vie, M. Armstrong a déclaré qu'il nous faut suivre ceux que Dieu met en poste, tant et aussi longtemps que ces gens-là suivent la Bible et qu'ils enseignent les commandements de Dieu et qu'ils font l'œuvre de Dieu. M. Armstrong en a déjà parlé et moi j'insiste là-dessus. Ne suivez pas quelqu'un qui arriverait en poste et qui voudrait détourner l'Église de la vérité biblique. Si quelqu'un arrive et veut changer les lois de Dieu, observons maintenant le dimanche au lieu du sabbat, retournons au courant principal du christianisme en général. Non! Regardez! Et si ça se produit, regardez où Dieu va continuer à accomplir son œuvre. Après que l'Église de Dieu eut implosé, les gens ne savaient pas où aller, et moi non plus. Je pense que je n'ai jamais jeûné comme j'ai jeûné et jamais prié comme j'ai prié à ce moment-là. J'ai regardé certaines émissions de Gardner Ted Armstrong à ce moment-là pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'ai regardé et j'ai entendu les émissions de d'autres personnes qui s'étaient démarrées des églises. Quelqu'un m'a demandé « Pourquoi est-ce que vous faites ça, M. Meredith? » J'ai dit « Je veux voir si quelqu'un continue le travail. » Mais personne ne continuait le travail. De la bonne façon, j'étais le seul évangéliste des plus âgés à ce moment-là qui avait été ordonné pour faire l'œuvre et je ne pouvais pas me permettre de ne pas continuer à annoncer l'Évangile. Les rigolos qui ont pris charge de l'Église universelle de Dieu à ce moment-là l'ont jeté par terre, l'ont amené ailleurs. Et ça m'a fâché, je ne pouvais pas endurer ça. J'avais été ordonné pour enseigner l'Évangile et pour faire l'œuvre. Je me sentais un peu comme c'est écrit dans Jérémie 29, « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui me pousse à parler. » À l'époque de l'Église de Sardes, quand les hommes se sont détournés de la vérité de Dieu, M. Armstrong a tout de suite passé à l'action. Et dans mon cas, quand ceux qui étaient en charge de l'Église universelle de Dieu ont commencé à publier des choses complètement contre Dieu, comme la brochure « Dieu est » qui était complètement païenne. Je me disais « Il faut que j'agisse, il faut que j'intervienne. » À ce moment-là, ça n'a pas pris de temps. Peu de temps après, nous avons été sur KIEV, sur radio, et après ça, sur d'autres stations de radio. Et de plus en plus, nous avons annoncé l'Évangile à Little Rock, en Arkansas. Après 2 ans, nous avons commencé à prêcher l'Évangile à la télévision. M. Ames est venu nous rejoindre. Il m'a aidé dans les émissions de télévision et l'œuvre a commencé à grandir. Nous avons continué depuis ce temps-là. Nous continuons l'œuvre que nous avons reçu la mission d'accomplir. Suivez la vérité. Ne suivez pas des gens qui diluent la vérité de Dieu. Je ne parle pas de petits détails ici. Je parle de vérités majeures desquelles se sont détournés les gens qui dirigeaient l'Église universelle de Dieu vers sa fin. Allons à Genèse, s'il vous plaît, maintenant. Genèse, chapitre 3, pour bien comprendre comment Satan travaille. Genèse chapitre 3. Ça parle de Satan. Ça nous aide à comprendre davantage. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, verset 1. Il est très rusé. Ça ne dit pas qu'il est sage, mais il est subtil. Il tord les choses de façon insidieuse. Il joue des tours, il tend des pièges. Il est un maître dans cet art mauvais. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Elle savait ce que Dieu avait dit. Elle a cité ce que Dieu avait dit exactement. Dieu avait dit, « Si vous mangez de cet arbre, il y aura des conséquences. » Mais Satan dit, « Non, écoutez, prenez pas ça à la lettre. Ne soyez pas trop sévère par rapport à ça. » Dieu ne s'inquiète pas si vous observez le dimanche au lieu du sabbat. C'est un autre jour de la semaine. Dieu a fait tous les jours pareil. Satan amène les gens à raisonner autour des lois de Dieu. Mesdames, je ne veux pas heurter votre sensibilité, mais c'est la psychologie qui l'indique. Les femmes sont plus réceptives, plus ouvertes, plus accueillantes. Mon fils, qui est vice-président de sa compagnie dans le domaine des ventes, mentionne que lorsque les vendeurs qui vont de porte à porte pour vendre différents produits, des encyclopédies par exemple, ils disent que si un homme se présente à la porte pour répondre, ne perdez pas votre temps. Mais si une dame vient vous répondre, alors parlez-lui. Vous allez avoir une meilleure chance de vendre votre produit parce que les femmes ont été faites par Dieu de cette façon-là pour être davantage ouvertes, davantage réceptives, accueillantes. C'est formidable. Elle doit l'être envers son mari. Elle doit l'être envers ses enfants. C'est une qualité. Mais il faut que les femmes réalisent que sur le plan spirituel, vous êtes responsable à Dieu. Vous n'êtes pas seulement responsable à votre mari. Vous devez honorer votre mari. Et vous devez suivre votre mari si votre mari suit Dieu. Dieu a fait votre mari en tant que chef de la famille. Ma femme a grandi beaucoup durant l'épreuve qu'elle a eue. Et moi, j'ai grandi beaucoup spirituellement dans l'épreuve horrible que j'ai eue pendant 4 ans. J'ai demandé à Dieu de me donner différentes compréhensions, une compréhension plus profonde. Dieu nous a fait différents, hommes et femmes. Ne vous laissez pas être mal guidé, ne vous laissez pas être blessé. Ne laissez pas vos amis vous entraîner ailleurs. M. Carl McNair, avant qu'il meure, m'a mentionné à 2-3 reprises que quelques ministres que nous avions, quelques membres que lui connaissait, Carl McNair a dit, leurs épouses ne veulent pas venir avec nous parce qu'ils nous trouvent un peu trop sévères et ils veulent aller vers d'autres groupes qui sont plus larges pour l'application des lois et ainsi de suite. Alors, les femmes sont allées dans ces groupes-là et les maris les ont suivies. L'homme suivait la femme, mais, il y a un problème. Il nous faut réfléchir. Vivez selon toute parole de Dieu. Ne suivez pas votre épouse, messieurs, à moins qu'elle suive Dieu. Et mesdames, ne suivez pas votre mari sur le plan spirituel, à moins qu'il ne suive Dieu. Bien sûr, personne n'est parfait, mais voici le principe. Satan savait quoi faire. Il est allé directement vers la femme. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors elle lui en a donné. Chérie, hein, c'est bon. Alors Adam en a mangé aussi. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils ont réalisé qu'ils n'auraient pas dû faire certaines choses. Ils s'étaient rebellés contre Dieu. Et après ça, ils ont été chassés du jardin d'Éden. M. Armstrong a expliqué ça clairement. Satan a dit, « Satan leur a dit, « Vous ne mourrez pas, vous ne comprenez pas? Dieu est trop sévère, il en met trop, vous ne mourrez pas. Regardez comment cet arbre-là est beau, celui qui vous a défendu. Vous allez connaître des choses autres, vous allez être plus heureux. » Un grand vendeur. Alors, Ève a dit, « Oui, je vais t'écouter. » Elle a suivi son conseil. Et toute la race humaine a déraillé de sa voie à partir de ce moment-là. Laissez pas votre esprit se détourner de la vérité de cette façon-là. Satan essaie de faire paraître Dieu injuste depuis le tout début. Comment ça se fait que Dieu ne vous laisse pas manger de cet arbre-là? Il est injuste. Si vous en mangez, vous allez être aussi intelligent que lui. Il est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu veut que vous ayez la sagesse de Dieu de façon générale. Et Dieu veut que vous ayez de la puissance. Mais Dieu ne veut pas vous donner cette puissance avant que vous soyez complètement conquis par lui, converti, que vous ayez l'Esprit de Dieu en vous. Alors, vous pourrez utiliser un corps spirituel glorifié et une grande puissance de bonne façon. Mais jusque-là, Dieu ne vous donnera pas cette sorte de puissance. Écoutez, un père et une mère dans une famille ne donnent pas à leur fils de 11 ans les clés de la voiture en disant « amuse-toi ». Non, un petit garçon de 11 ans n'a pas la sagesse et la maturité pour être capable de conduire une voiture. Vous savez, c'est exactement la même chose. Il faut attendre que l'enfant ait la maturité et ait ce qu'il faut pour avoir cette puissance de pouvoir conduire une voiture. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas recevoir maintenant cette puissance totale. Nous sommes des petits-enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à devenir des êtres spirituels dans sa famille tant que nous n'avons pas vaincu et tant que nous n'avons pas été testés, éprouvés et tant que nous n'avons pas développé son caractère. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste en défendant le sexe avant le mariage, parce que quand on transgresse cette loi-là, il y a toutes sortes de problèmes. Les gens sont désillusionnés, certains se suicident même parce qu'ils se sentent coupables. Ce n'était pas aussi bon qu'ils pensaient. Ils ont des maladies vénériennes. Il y a des jeunes filles qui deviennent enceintes. Il y a des divorces et ainsi de suite. Un homme qui commet l'adultère, oui, il s'amuse avec la femme de son voisin, bien sûr. Mais dans tous les cas, ça sera connu. Les enfants vont le trouver. L'épouse va le trouver. Les amis vont le découvrir. Dieu a donné cette loi pour une raison. Ceux qui ne font pas attention à ça ont des maladies vénériennes. Je vous ai déjà parlé de mon ami Hoppy. C'est un de mes grands amis. J'avais un petit groupe d'amis lorsque j'ai grandi. Un petit groupe. On était à peu près 25. Et j'aimais ces garçons-là. Hoppy était aveugle. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Son père était un avocat qui avait réussi. Il avait une très grande maison sur une belle avenue. Un soir d'été, je me suis rendu là-bas pour aller voir Hoppy. J'ai entré tranquillement dans la maison par une sorte de véranda. Il y avait un piano et Hoppy jouait au piano la sonate à la lune de Beethoven. Ça m'émeut tellement. Il regardait la lune et il jouait magnifiquement la sonate à la lune, mais il ne pouvait pas voir la lune, il ne pouvait rien voir. Pourquoi? Parce que son père avait eu toutes sortes d'aventures sexuelles. Son père s'était amusé, mais ce n'était pas amusant pour Hoppy. Son père avait fait la vie avec les prostituées, allait coucher à gauche et à droite, et Hoppy est né aveugle. Qui a payé? Le père a sans doute payé, mais Hoppy a payé un grand prix, a payé un grand prix pour ses fautes. On ne retire pas de bons fruits à transgresser les lois de Dieu, mais Satan est très subtil à faire paraître les choses bonnes comme mauvaises et les choses mauvaises comme bonnes. Ne vous laissez pas aller là-dedans. On peut avoir un plaisir à court terme en ayant du sexe avant d'être marié ou en s'enivrant, ainsi de suite. Non! Si on vous fait du mal, ne vous vengez pas. Dieu dit, laissez-moi la vengeance est mienne. J'ai appris cette leçon-là. Au cours des années, plusieurs personnes m'ont frappé dans le dos. Je vous en ai déjà parlé. Plusieurs choses sont arrivées à ces gens-là. Je leur ai pardonné, je ne leur en ai pas voulu. J'ai laissé ça dans les mains de Dieu. Dieu prend soin du reste. Ce n'est pas à nous. Satan veut que les gens soient centrés sur eux-mêmes complètement. Pensez-y. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, je, moi, voici ce que je veux et je le veux maintenant, ou j'ai été offensé, c'est Satan qui travaille en vous pour que vous développiez cette amertume. Écoutez, il faut s'occuper des bonnes choses. Quand on n'est pas assez occupé, on devient en danger par rapport à Satan. Il faut s'occuper. Qu'est-ce qui est arrivé à David, un homme selon le cœur de Dieu? David était souvent à la bataille avec ses soldats, mais une année, au printemps, lorsque les armées sont sorties pour la guerre, il a envoyé son général Joab pour s'occuper de la bataille, et David est resté à Jérusalem, dans le palais. Vous connaissez l'histoire. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait à Jérusalem à ce moment-là. L'action n'était pas à Jérusalem. Et David était seul, il y avait beaucoup de temps, et probablement, j'imagine que c'était un beau soir en clair de lune. Là, je mets ça comme si c'était Hollywood. Non, mais écoutez, David est sorti sur son balcon et il y avait cette magnifique femme qui était là, en bas de son balcon, qui se baignait. Ne pensez pas que cette femme-là était insensée. Son fils a été Salomon. Elle était sans doute très intelligente. Elle voyait sûrement le roi sur son balcon en haut aussi. Elle a pris son bain nu devant le roi. Il a envoyé quelqu'un la chercher. Elle était disponible, elle s'était mise disponible, pour ainsi dire. Et Dieu a commencé à retirer ses bénédictions. Il a retiré la paix du royaume et les enfants de David se sont tournés contre lui. L'enfant qui est né de cette union illicite entre cette femme-là et David est mort. Malgré le jeûne de 7 jours de David, Dieu a humilié David. Dans le psaume 51, vous voyez un peu la description de cette repentance. « Je ne méprise pas David. Il s'est vraiment repenti totalement et profondément et il n'a pas répété la faute. » On voit comment Dieu en parle. Dieu dit à 2 reprises, « Seulement dans le cas de Uri, le Hittite, que Dieu a fait un reproche particulier à David. » David, donc, a commis cette chose terrible avec Bathsheba. Ne restez pas seul ailleurs. C'est le cas des vendeurs qui sont sur la route, par exemple, ou ceux qui travaillent à l'extérieur. Parfois, les gens ont trop de temps libre et ça tourne mal. Restez occupés. Occupez-vous des choses de Dieu. Gardez les priorités de Dieu dans vos vies pour être capable de résister à Satan dans toutes sortes de circonstances. Vous êtes dans une bataille. Allez dans Hébreux maintenant, le chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 12. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Bon, le temps avance, je vais aller un petit peu plus vite dans mon message. Paul écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça nous piège et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il nous faut combattre le bon combat, jamais abandonner, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » Frères et sœurs, Dieu va vous corriger si vous êtes son enfant, s'il est vraiment votre père. Apprenez les leçons. Lorsque Dieu vous corrige, lorsque Dieu vous châtie, ne vous fâchez pas contre Dieu. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner, qu'est-ce qu'il essaie de me montrer à travers l'épreuve qu'il permet que je rencontre. Verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et le verset 14, un peu plus loin, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Soyez comme le Christ, soyez comme Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Cette racine d'amertume, Satan va l'utiliser au maximum pour vous amener à être de plus en plus amer, pour que vous cessiez d'étudier, que vous soyez de plus en plus fâché contre des frères, contre l'Église, contre le ministère, et même contre Dieu. Une racine d'amertume, c'est un outil extrêmement puissant que Satan utilise. M. Armstrong disait, c'est comme être pris dans l'absorption d'héroïne. C'est une réelle addiction, mais extrêmement puissante. Ne laissez pas ça vous arriver. Je vais vous donner trois clés ici pour conquérir Satan, pour vaincre Satan. Ce n'est pas compliqué. Même si vous ne prenez pas de notes, peut-être, vous pouvez vous en rappeler par cœur. Première chose, comme je l'ai déjà mentionné, connaissez votre ennemi. Connaissez votre ennemi. Voyez comment il travaille, comment il s'approche de vous. Rappelez-vous que vous êtes dans une guerre spirituelle et qu'il vous faut vaincre. Votre vie éternelle en dépend. Battez-vous pour vaincre. Ne limitez pas vos efforts. Deuxièmement, deuxième clé pour vaincre Satan, marchez avec Dieu et utilisez les outils spirituels dont nous avons parlé. Ces outils-là sont à votre disposition. L'étude biblique, par exemple. Étudiez ce livre. Nourrissez-vous-en. Jean 6, verset 57. Nourrissez-vous de Christ pour en arriver à penser de plus en plus comme Dieu pense, que Dieu soit réel pour vous. Aussi, méditez. Méditez sur ce que vous lisez. Ça va devenir réel, ces choses-là, si vous les méditez, si vous prenez le temps d'y réfléchir. Allez à 2 Corinthiens, chapitre 10, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 3. L'apôtre Paul écrit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Oui, nous sommes dans un combat, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, nos armes sont spirituelles, par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et regardez le verset 5, « Nous renversons les raisonnements ou les arguments, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ne vous mettez pas à raisonner ou à argumenter, « Dieu ne me comprend pas. » Cet homme-là a trop mal agi contre moi, je ne peux pas lui pardonner. Rejetez ces arguments qui viennent de Satan. Vous êtes dans une guerre. Notre guerre n'est pas physique et nos armes ne sont pas physiques non plus. Nos armes sont des armes spirituelles puissantes. Prenez les armes de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner dans des raisonnements humains alimentés par Satan. Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit ici. En combattant le diable, rappelez-vous cette dernière phrase, « Amenez toute pensée captive à Christ. » Parfois, mon esprit commence à s'en aller vers d'autres directions et Satan s'approche de moi. Il y a toutes sortes d'idées qui me viennent à l'occasion, des idées bizarres, des idées insensées qui m'arrivent de nulle part. Je m'imagine en train de combattre contre quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un ou de réagir négativement contre quelqu'un. Tout de suite, je prie Dieu et je lui demande de repousser Satan, d'éloigner Satan de moi. Éloigne ces démons de moi, je te prie. Quand ces pensées commencent à entrer dans votre esprit et que des pensées mauvaises vous viennent, des choses insensées comme ça, sachez que vous êtes dans une bataille. C'est réel, vous savez. J'ai étudié la psychologie, je sais comment le cerveau humain fonctionne. Ça vient de Satan. Je connais la Bible aussi. Satan met ces choses dans votre esprit. Il diffuse. Quand ça m'arrive, je coupe ça tout de suite à la racine et je ne veux pas que ça se continue pour pas que ça m'entraîne à penser plus mal et à aller plus loin. Arrêtez ça dès le départ. Ne laissez pas ces pensées mauvaises être plus longtemps dans votre esprit. Au contraire, amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ parce que vous êtes en guerre. Utilisez la puissance de l'Esprit de Dieu pour vaincre. Méditez la parole de Dieu. Ayez ces pensées-là en vous. Utilisez aussi la prière. Priez de tout votre cœur. prier sans cesse, marcher avec Dieu, parler avec Dieu le matin, avant de commencer votre journée active. Priez parfois au milieu de la journée et avant de vous coucher, allez prier Dieu à genoux. Peut-être vous allez dire, j'ai pas de temps. Écoutez, Daniel administrait tout l'empire sous Nabuchodonosor à l'époque, tout l'empire babylonien, et il prenait le temps. Le roi David était occupé, mais il trouvait le temps de prier. Vous pouvez trouver le temps de prier, demander à Dieu de vous aider, de vous fortifier, de vous aider à vaincre et à vaincre le monde de Satan, à remporter la victoire. Utilisez aussi le jeûne. Le jeûne est très important. Allez dans Marc, s'il vous plaît. Marc, chapitre 9, où il est question du jeûne. Le Christ nous a invités à jeûner et c'est un outil spirituel important pour être plus fort et remporter nos combats. Vous vous rappelez le contexte ici? Les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Et le Christ leur explique pourquoi. Verset 29, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne, comme on voit précisé dans Matthieu 17 et le verset 21. Lorsqu'on jeûne, on réalise à quel point on a besoin de Dieu, et sur le plan physique et sur le plan spirituel. Jeûnez régulièrement. Utilisez cet outil puissant, si vous êtes capable de le faire physiquement, bien sûr. Quelques individus, exceptionnellement, ne peuvent pas le faire, mais ceux qui peuvent le faire, faites-le régulièrement. Utilisez ces outils pour marcher avec Dieu et vous allez vaincre. La troisième clé pour vaincre, c'est d'avoir une humilité réelle et profonde. Avoir une humilité réelle et profonde dans tout ce que vous faites. Développez cette sorte d'humilité. Je me rappelle de certaines personnes, des gens importants dans l'Église, qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont subi une démotion, qu'ils ont été mis à un poste moins élevé. Je me rappelle d'un qui disait, je ne peux pas le prendre. Je voyais que cet homme-là était rempli de vanité. Il avait une mauvaise attitude. C'était un homme très intelligent, très capable, mais il avait beaucoup de vanité. Je ne veux pas identifier la personne. Un autre, je me rappelle, avait une voix très belle et il donnait des sermons très puissants. Un jour, il a dit, si M. Armstrong me dit de creuser un trou dans le sol vers la Chine, je vais le faire. Je vais commencer à creuser tout de suite. Alors après, il disait, si M. Armstrong me dit de remplir le trou, je vais remplir le trou. Je vais faire tout ce que M. Armstrong m'a dit. Je vais suivre cet homme toujours. Mais quelque chose est arrivé à cet homme-là. Une partie de son empire lui a été enlevée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une démotion et il s'est tourné contre M. Armstrong. Il a quitté l'Église et il a amené avec lui un groupe de personnes. La vanité l'a emporté, la jalousie, la convoitise. Il en a été victime. C'est pour ça que je vous dis l'importance de s'humilier. Nous avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Il vous aime. Vous êtes fait à son image. Il veut vous amener dans son royaume. Mais vous devez vous humilier devant Dieu si vous voulez entrer dans la vie éternelle. Demandez à Dieu d'avoir une réelle humilité. C'est une clé. Allons à 1 Pierre chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5. Il vient de parler des anciens qui servaient humblement dans l'Église. Il dit au verset 5 ici, 1 Pierre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, je m'adresse à tous, bien sûr, je m'adresse à tous parce que vous êtes tous plus jeunes que moi, mais vous qui êtes des adolescents ou dans la vingtaine, travaillez là-dessus pour votre bien, non pas pour mon bien, mais pour votre bien. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Nous pouvons tous apprendre des uns des autres. Revêtez-vous d'humilité. Soyez comme Moïse, l'homme le plus doux sur la face de la terre, le plus patient. Il avait la crainte de Dieu, un homme extrêmement humble que Dieu a utilisé beaucoup. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il va vous donner du pouvoir, il va vous donner de la puissance, il va vous donner de la joie et de la gloire à jamais si vous apprenez les leçons que vous devez apprendre maintenant. pour que vous soyez prêts aux fonctions qu'il vous réserve dans le monde à venir. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il se soucie de vous. Il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, oui, nous combattons le diable, comprenez-le bien. Notre ennemi, c'est le diable et ses démons. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous glorifiera, vous rendra inébranlable. Quand, après que vous aurez souffert un peu de temps, il nous faut apprendre les leçons, il nous faut passer à travers des épreuves, il nous faut supplier Dieu, il nous faut désirer la vie éternelle par-dessus tout, que ce soit réel pour nous. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà les trois clés pour vaincre Satan, le diable. J'espère que vous êtes davantage conscient maintenant de ce que je veux vous montrer, qu'il existe un monde spirituel réel qui agit derrière les événements qui se passent dans le monde, derrière ceux qui vont nous attaquer plus tard. Satan est derrière tout ça. Nous sommes dans une guerre spirituelle contre Satan et ses démons. N'abandonnez pas. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Vous pouvez être victorieux. Faites votre part et vous serez victorieux à jamais.